Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin dans ce premier numéro de 2023. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Faustin Kouadiasala. Il est journaliste, il est directeur des publications du journal Echo News, paraissant à Kinshasa. Bonjour Faustin Kouadiasala.
Oui, bonjour Guy Mathieu, bonjour aux amis qui sont en ligne.
Albert Kyungu, membre de la société civile, il est coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kasaï Central. Bonjour Monsieur Albert Kyungu.
Bonjour Guy Mathieu, bonjour à tous les co-débatteurs.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au magazine Jeune Afrique, elle est spécialiste de l'Afrique. Bonjour aussi Madame Anna Sylvestre.
Bonjour et bonjour à tous.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. Faustin Kouadiasala. Il est journaliste et directeur des publications du journal Echo News, paraissant à Kinshasa. M. Albert Kyungu, membre de la société civile, il est coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kasaï Central et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique, elle est spécialiste de l'Afrique. Nous allons commencer par commenter l'actualité sécuritaire au Nord Kivu avec la problématique du retrait du M23 de certaines localités de Rutshuru et en Ituri avec les tueries d'environ 100 civils dans un espace d'un mois à la suite des affrontements quasi quotidiens entre la milice de la Codeco et celle du Zaïre, bilan donné par la société civile. Processus de Nairobi, les facilitateurs de l'EIAC pour le processus de paix en RDC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, a rencontré les responsables de la rébellion du M23 jeudi 12 janvier à Mombasa au Kenya. L'ancien président kenyan a également annoncé une nouvelle session de pourparlers intercongolais à Nairobi au Kenya pour les mois de février prochain sous l'égide de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Les dirigeants du M23 ont réaffirmé la volonté de poursuivre un retrait ordonné et de respecter le cessez-le-feu strict. Monsieur Faustin Kouadiasala, chaque fois qu'on annonce le retrait du M23, la force régionale de l'EAC salue, tandis que le FRDC, elle, parle d'un leurre, d'une diversion. Et on a l'impression que les deux forces qui sont censées collaborer sur le terrain n'ont pas la même perception sur le retrait du M23. Comment vous analysez cela?
Bon, merci Guy pour la question. Évidemment, bon, les situations qui prévaut à l'Est, c'est un peu, bon, ça devient de plus en plus complexe. Ben, vous vous rappelez que, depuis un temps, les forces onusiennes qui opèrent sous le label de la MONUSCO se sont pratiquement concentrées sur la zone opérationnelle de l'Est, estimant que c'est la partie la plus fragile de la RDC. Mais on se rend compte que une vingtaine d'années après la MONUSCO, c'est comme si on était en train de tourner en rond. Et avec la résurgence du M23, la donne devient encore beaucoup plus complexe, parce que évidemment, on continue à promettre avec le processus diplomatique lancé aussi bien à Luanda qu'à Nairobi, que voilà, on peut peut-être tendre vers une solution négociée sans qu'il y ait des coups de balle à gauche et à droite. Mais de plus en plus, c'est comme si plus nous avançons et plus les jours passent, on se rend compte qu'on est en train de s'enliser. Parce que, vous rappelez, c'est vrai que quand on a décidé avec l'accord de Luanda de déployer des troupes de l'EAC dans les territoires occupés par l'M23, on se disait, bon, voilà, c'est peut-être un début d'espoir. Et il y a même un chronogramme, vous vous rappelez, qui a été convenu au niveau de Luanda avec un deadline bien limité. Il y avait jour J plus 2, jour J plus 7, ainsi de suite. On se disait, bon, si l'M23, à l'échéance convenue, ne se retirait pas des zones occupées, il y a les forces de l'EAC qui devaient entrer en mouvement pour les déloger des forces. On se rend compte qu'au lieu d'appliquer ou de rester dans la logique de Luanda, c'est comme si on est maintenant en train d'amadouer l'M23, parce que vous avez suivi, vous et nous, que le président Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur désigné de l'EAC dans la crise qui se vit à l'Est, a eu une réunion à Mombasa, au Kenya, avec une délégation du M23. Donc, quelque part, c'est comme si, non seulement qu'on est dans un processus contraignant où l'M23 devait se sentir acquillé, mais c'est comme si on les caressait dans le sens des poils en les suppliant d'intégrer le processus de Luanda. Et ce qui est encore dangereux, c'est ce qui est révoltant. Ce qui, quelque part, irrite l'opinion publique congolaise, c'est que dans les zones censées être libérées par l'M23, les forces loyalistes, c'est-à-dire les forces armées de la RDC, ne sont pas les bienvenues. Alors on se dit, mais finalement, on est en face d'une force tampon qui peut-être inaugurerait la mise en œuvre du processus de balkanisation qu'on continue à décrier depuis tous ces temps. Donc je crois qu'il y a quelque part, c'est ce que nous tentons de dire depuis toujours dans les colonnes de CONEWS, c'est comme si en adhérant à la communauté des États d'Afrique australe, la RDC ne partage pas forcément les mêmes agendas.
D'Afrique de l'Est. Autres...
Voilà, avec l'Afrique de l'Est, merci pour la situation. C'est comme si la RDC ne partage pas forcément les mêmes agendas que les pays qui sont là depuis très longtemps. Parce que tout le monde le sait, les rapports des Nations Unies viennent le prouver, que les M23 bénéficient d'un appui militaire aussi bien en hommes qu'en munitions du Rwanda. Et même les rapports des experts des Nations Unies sont allés plus loin même, en indexant l'Ouganda dans la chute de Bounagana. Vous savez que tout a commencé avec la chute de Bounagana. Donc c'est comme si quelque part, bon, c'est vrai que il y a un problème de manque de sincérité, de netteté au sein des pays même de l'EAC. C'est comme si, en adhérant dans cette communauté sous-régionale, la RDC se jetait en fait dans la gueule du loup, parce qu'on ne comprend pas comment on est censé exécuter l'accord qui a été convenu à Luanda, mais dans les zones qui sont présentement en train d'être libérées par l'M23, on se dit non, les FARDC ne sont pas les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe entre temps dans ces zones? Quels sont les gens qui sont présents dans ces zones? Est-ce qu'on contrôle les entrées, les sorties, ainsi de suite? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un processus d'infiltration qui est en train de se mettre en place? Donc voilà autant de zones d'ombre qui jettent un peu un doute dans ce qui s'est fait au niveau de l'EAC. On aurait souhaité, et ça c'est ce qui pouvait faire un sondage au sein de l'opinion publique congolaise, on aurait souhaité que ce processus soit mené dans le cadre de la SADC, mais évidemment, la diplomatie congolaise a jeté son dévolu sur l'EAC, mais de plus en plus, on commence à se poser un certain nombre de questions.
Merci.
Notamment sur l'agenda caché de certains pays de l'EAC qui sont en même temps agresseurs et qui se présentent aussi dans la peau des sapeurs-pompiers. Et là, ça pose problème.
Merci Albert Kiungu. Comment vous comprenez cette stratégie du M23 qui consiste à affirmer qu'il se retire d'une zone donnée, mais on constate qu'il ne se retire pas? C'est le cas de Kibumba, ou alors il se retire pour aller occuper une autre localité et renforcer ses positions sur tous les fronts. Cette stratégie vise ou viserait quoi, à votre avis?
Nous suivons de près cette situation du M23 avec tous ces rebondissements. Nous comprenons simplement que le M23 est coincé par le feu qui vient de toutes parts. Et donc, on semble se cacher derrière son doigt. On trouve des superfuges pour aller se cacher dans d'autres coins, faire semblant de se retirer dans d'autres coins. Nous pensons simplement qu'ils sont aux abois. Ils n'ont pas d'arguments à faire valoir. Et que, étant mis à nu, ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est comme ça qu'ils cherchent comment ils peuvent se sauver. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'au vu aussi de tout le monde, vous annoncez au grand jour les retraits de telle entité et la remise à la force régionale. Et le matin, le soir, vous occupez d'autres coins du même territoire. C'est inconcevable. Donc, on se cache derrière son petit doigt. Nous pensons seulement qu'ils sont coincés. Et avec les tirs croisés diplomatiques, politiques, militaires, ils sont coincés, ils finiront par lâcher. C'est tout ce que nous sommes en train d'entrevoir. Et ceci nous rappelle cette contradiction entre le point de vue de la force régionale qui salue chaque fois qu'ils annoncent et ils saluent, les soirs d'effet sont un peu dubitatifs. Non, nous comprenons qu'en tant que Congolais, on doit augmenter la vigilance puisqu'il y a quelque chose de louche qui se cache.
Merci. Madame Anna, la force régionale a annoncé le retrait du M23 de Kibumba, mais ces mouvements rebelles se trouvent toujours dans cette localité selon la société civile et certains experts. Et le EAC a également affirmé avoir pris le contrôle de la base militaire de Rumangabo après le retrait du M23, mais les témoins disent que ces rebelles sont encore, n'est-ce pas, dans les environs de cette base. La force régionale qui doit constater cela semble rester passive et ne prend aucune initiative conformément à la feuille de route de Luanda pour, n'est-ce pas, pousser les M23 à se retirer effectivement de toutes ces zones. Madame Anna, avec cette attitude, cette zone tampon, d'ailleurs, Faustin Kodiasel a commencé à la relever, cette zone tampon que le gouvernement congolais et beaucoup d'experts redoutent ne serait pas en train de se matérialiser avec beaucoup de subtilité?
Écoutez, en tout cas, il est sûr que depuis le début, depuis qu'on a mis en place, qu'on a lancé l'idée de cette force régionale et qu'elle se déploie peu à peu, elle semble, comment dire, être constituée de faiblesses intrinsèques. D'abord, vous le rappeliez, dans sa mission, le commandant de cette force régionale, dès le départ, disait qu'elle n'avait pas vocation à avoir une mission offensive. Elle n'avait pas, cette force régionale ne souhaite pas combattre de façon active les rebelles du M23, mais plutôt, d'une certaine façon, de s'interposer, comme vous le dites, un peu de faire le tampon. Donc ça, c'était un premier point. L'autre point, et mon confrère en a parlé, c'est que cette force régionale, elle est composée de soldats de plusieurs pays de la sous-région et que chacun de ces pays semble avoir, d'une certaine façon, son propre agenda. Mon confrère disait caché, je ne sais pas s'ils sont cachés, c'est assez clair en fait l'agenda des uns et des autres, mais en tout cas chaque pays semble avoir son propre agenda. Et leur agenda n'est pas forcément celui de la RDC, leur priorité n'est pas forcément celui de combattre de façon très très active le M23, parce que par ailleurs c'est risqué, ça veut dire qu'ils font courir éventuellement des pertes à leurs hommes, ça veut dire que pour certains pays, si on pense par exemple au Kenya, la Tanzanie, il faut assumer cela face à une opinion publique, ils n'ont pas forcément envie de s'engager, et puis il y en a d'autres qui sont partie prenante d'une façon ou d'une autre aux conflits divers qui ont lieu dans l'est de la RDC. Donc tout ça et à mon avis, en tout cas, une faiblesse intrinsèque de cette force régionale.
Merci. On va à Ituri où plus de 100 civils ont été tués depuis décembre dernier par différents groupes armés. Ces chiffres ont été publiés par la coordination de la société civile Forces Vives de l'Ituri dans une déclaration à la presse jeudi à Bunia. Cette structure fustige l'inefficacité, selon elle, des mesures de l'état de siège dont l'objectif était d'imposer la paix dans l'est de la RDC. Elle demande au président de la République de convoquer d'urgence une table ronde pour lever cette mesure exceptionnelle qui, ajoute-t-elle, a montré ses limites. Faustin Kodiasala, votre réaction par rapport à cette situation d'insécurité qui prévaut en Ituri?
Il ne faut pas détacher ce qui se fait en Ituri avec ce qui se fait dans le Nord Kivu, parce qu'en fait, c'est une ceinture qui est en proie à l'insécurité depuis pratiquement une vingtaine d'années. C'est-à-dire, si on doit faire une analyse isoler l'Ituri de ce qui se passe dans le Nord Kivu, c'est en fait poser une analyse tout à fait biaisée. Moi, je me dis, aujourd'hui, en fait, ce qui se fait en Ituri, si on doit aborder le sujet en allant directement dans les faits, c'est-à-dire ce qui se passe dans ces zones d'insécurité permanente pose un problème de l'autorité de l'État. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que dans une zone où il y a la MONUSCO qui est là, qui est censée protéger les civils et les biens, il y a les forces armées de la RDC qui sont là, et qu'on continue à tuer à gauche et à droite. C'est que ça pose un problème. C'est pourquoi je me dis, quelque part, il faut que Kinshasa se ressaisisse aussi. Parce que vous savez, Guy, bon, c'est vrai que dans notre constitution, on prône un système à forte décentralisation, mais aussi longtemps que tout se décide à Kinshasa, il y a une rupture entre ce qui se fait dans les provinces et ce qui se décide à Kinshasa. Aujourd'hui, on est en train de se plaindre qu'on continue à tuer, tu vois, en Ituri, mais on doit aussi se plaindre à ce que comment toute l'énergie que la communauté internationale concentre autour de la MONUSCO n'arrive pas à trouver une solution à un problème. C'est comme si on se battait comme contre l'hydre de la mythologie, c'est-à-dire quelque part où on court derrière le vent et qu'on ne sait pas résoudre le problème, alors qu'on connaît, le problème est là, la solution, on la connaît. Donc, comment on n'arrive pas à mettre fin à tout ce qu'il y a comme cycle d'insécurité dans les tourilles? Et je voudrais juste citer par un point. Vous savez, il y a une émission qui est passée avec le journaliste de RFI, Alain Foucault, quand il a dit, non, voilà, avec le conseiller du chef, le conseiller privé du président de la République, Fortuné Bisselele, qui a fait part des contacts que Kinshasa avait engagés avec Kigali pour parvenir à un consensus pour une paix globale dans la région des Grands Lacs. Mais qu'est-ce que le conseiller Bisselele a dit? Il a fait une révélation que certains ont négligée. Il a dit qu'on était sur le point de s'engager dans une relation de sécurité mutuelle entre le Rwanda et tous les pays de la sous-région. Mais il y a des forces obscures, c'est le terme qu'il a utilisé, qui ont fait que ces négociations puissent capoter. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelles sont ces forces obscures qui veulent assez que l'Est et la RDC soient dans une situation d'instabilité permanente?
Merci.
Voilà.
Merci, Albert Kyungu. Plus de 100 civils tués dans un espace de mois. On ne sent pas le gouvernement prendre des dispositions pour mettre fin à toutes ces violences. Comment vous comprenez cela, M. Albert Kyungu?
Oui, c'est avec beaucoup d'inquiétude que nous apprenons ce qui se passe dans la province de l'Ituri avec ces massacres en série pendant que nous sommes en plein état de siège. C'est vrai, M. Faustin le disait, la crise de l'Ituri, c'est pratiquement la face B de la crise qui se passe au Nord Kivu. C'est vrai que là, vous avez des groupes locaux et étrangers qui écument la région. Mais l'inquiétude grandissante, c'est l'état de siège qui a été décrété pour en finir. Et que, malgré cet état de siège, cette situation perdure. Les gens, c'est matin, midi et soir qu'ils sont tués. On se pose la question, il y a eu quand même promesse du chef de l'État. On a vu le Premier ministre descendre à Ituri pour dire, nous sommes venus planter les jalons pour l'évaluation de l'état de siège. On devrait en parler. La question qu'on peut se poser en ce moment, où en sommes-nous avec cette évaluation promise de l'état de siège? C'est vrai, c'est un processus. Comme je le disais pour le 1-23, l'insécurité installée depuis des décennies à l'FMI ne sera pas résolue par un seul acteur, un seul facteur. C'est un système qu'il faut combattre par la conjugaison de plusieurs autres systèmes. C'est vrai, on est sur le front militaire, sur le front politique, sur le front diplomatique, ainsi de suite. C'est de la même façon qu'on considère l'état de siège comme l'une des possibilités qui a été envisagée pour en finir. Alors, du moment que cet état de siège a des failles, ça et là, l'évaluation, naturellement, pour nous permettre de dégager les forces, ce qui a marché, où est-ce qu'on peut renforcer? Donc, c'est ici qu'on en appelle à cette évaluation de l'état de siège pour tirer les choses au clair dans la conjugaison de plusieurs facteurs. Puisque là, il y a les natifs, il y a les notables du coin. Quand on parle de groupes locaux, ce sont des fils du coin qui sont en train de s'entretuer eux-mêmes. Donc, la responsabilité des uns des autres devrait être mise au clair et chacun devrait répondre de ses actes. Où est-ce qu'on en est avec cette justice? Qu'est-ce qui se passe? Voilà autant de questions qui font appel urgent vraiment à cette évaluation de l'état de siège pour essayer de passer à l'autre chose avec cette situation de l'insécurité dans l'Ituri.
Merci, Madame Anna Sylvestre. Le déficit de l'autorité de l'État dans certaines parties de cette province explique ces regains de violence. Selon certains experts, il y a même d'autres confrères, Faustin Kodiasala, qui a relevé cela. Est-il difficile pour le gouvernement congolais, dans les contextes du moment, de restaurer l'autorité de l'État dans certaines contrées de la République, Madame Anna Sylvestre?
Cela semble malheureusement un peu évident, effectivement, qu'il y a cette difficulté et que malgré le fait qu'on peut tout à fait accorder au gouvernement toutes les bonnes volontés du monde, il est face à un dilemme très complexe. C'est la base, mais effectivement, quand l'État ne possède pas la force ou ne possède qu'en partie la force, c'est évidemment très compliqué d'avoir l'autorité. Ce sont des régions où l'armée fait face à un tas de groupes armés et on en a que peu discuté là, mais il y a évidemment une faiblesse des FARDC face à ces groupes armés, face à cette capacité depuis plus de deux décennies à restaurer la paix et donc à restaurer l'autorité de l'État. dans ces zones. Donc c'est un problème évidemment éminemment complexe.
Merci, on prend une petite pause avec La paix sur terre de Jean Ferrat et on revient tout de suite après.
Aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières. Cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est ses années Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang.
La paix sur terre de Jean Ferrat, à travers cette chanson, il dénonce la guerre et prône la paix sur la terre. Jean Ferrat était un artiste musicien français qui nous a quittés en 2010. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Lors de sa récente tournée au Kasaï oriental, le chef de l'État ainsi que les collaborateurs qui l'accompagnaient ont constaté une certaine lenteur dans l'exécution de certains projets, notamment la construction de l'université officielle de Mujimaï, l'école Kalenda Mudishi et le stade de Kachala Bonzolo. Pour une certaine opinion, cette lenteur serait causée par le détournement des fonds alloués à l'exécution de ces projets. Faustin Kodiasala, vous êtes directeur des publications du journal Eco News, paraissant à Kinshasa. Vous avez choisi ces sujets dans l'édition, n'est-ce pas, de votre journal Eco News du mercredi 11 janvier et jeudi 12 janvier. Vous titrez sur sa manchette, comme jadis Kabila manquait 15 bons collaborateurs, Félix Tshisekedi, malade de ses conseillers. Faustin Kodiasala, pourquoi ces titres?
Bon, disons, merci d'avoir appelé ces titres de CONEWS. On se sent flatté parce que on se rend compte qu'on ne prêche pas dans les déserts et qu'il y a des gens qui nous suivent. En fait, ce que je voudrais dire, évidemment, on se met dans la peau d'un journaliste, on n'est pas de militants, on n'est pas non plus de politiciens. En fait, le problème, c'est qu'on doit reconnaître sincèrement, c'est que l'IDPS est arrivé au pouvoir sans savoir exactement ce qu'il attendait. Et sans savoir ce qu'il devait faire pendant les 5 ans de sa mandature. Si bien que vous vous rendez compte que depuis 2019, c'est comme si on est entré dans un long processus de tâtonnement. Et on a commencé avec le programme de 100 jours, on sait comment ça s'est terminé. Et puis ainsi de suite, il y a d'autres programmes qui se sont enchaînés jusqu'à ce qu'on arrive au programme de Tshile Jelou. Quand nous titrons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est malade de ses conseillers, il faut se demander... D'où est venu le problème? Vous vous rappelez, Guy, c'est-à-dire quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il est en coalition avec le FCC, il doit former un gouvernement avec le FCC, un gouvernement que le FCC doit diriger, parce que c'est le FCC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Évidemment, Félix Tshisekedi se rend compte que non, il risque de se poser un problème, c'est qu'il ne saura pas avoir une réelle autorité sur le gouvernement. Pour autant que, selon la Constitution, c'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale, et que ce n'est pas le président de la République qui gère. Alors il imagine un système, il s'entoure de conseillers qui, au fur et à mesure, essayent de monter ce qui s'apparente à un gouvernement parallèle. C'est-à-dire les grands dossiers sont traités, non plus au niveau du gouvernement, mais au niveau de son cabinet avec des conseillers qui se sont répartis les tâches. C'est dans ces conditions-là qu'on s'est rendu compte que le programme de 100 jours a été totalement piloté au niveau de la présidence, avec Kamere à l'époque quand il exerçait comme directeur de cabinet, en ignorant totalement le gouvernement. C'est peut-être quand ça a bardé au niveau du procès qu'on a dit appeler maintenant les ministres sectoriels, les Bitakoura, vous rappelez, ministre du développement rural, le ministre des finances, le gouverneur de la Banque centrale. Mais dans la pratique, tout a été géré au niveau de la présidence de la République.
Et vous êtes connaissant là?
Allô?
Oui, oui. Apparemment, vous établissez un lien entre la lenteur dans l'exécution de ces projets et certains conseillers du chef de l'État. Apparemment, dans ces enquêtes, Econews aurait des éléments, n'est-ce pas, qui l'ont poussé à établir ces liens entre ces travaux et certains conseillers à la présidence de la République.
Non, oui, je faisais ce petit rappel historique pour m'aider à asseoir mon raisonnement. C'est-à-dire, quand Tshisekedi s'affranchit de Kabila, fin 2021, il a un gouvernement qu'il sait contrôler. Malheureusement, avant ça, il a mis un système où ce sont ses conseillers qui gèrent les grands dossiers au niveau de la République. Si bien que tous les projets qui ont été mis en place, ce ne sont pas des projets qui ont été gérés au niveau du gouvernement. Ce sont des projets, bien sûr, portés par le gouvernement, mais suivis sur le terrain au niveau de la présidence de la République. Et évidemment, quand il se retrouve en difficulté par rapport à ce qu'il venait de constater dans les Kassai, on se rend compte qu'il y a la plupart des projets qui ont été lancés, des projets qui ont été pilotés au niveau de la présidence de la République. Malheureusement, on fait flop sur le terrain. C'est comme la construction de l'université officielle de Mbujimayi. Et quand les difficultés qui se posent sur le terrain, on fait appel à qui? On fait appel au ministre de l'enseignement supérieur universitaire qui doit se justifier. Et c'est ce qui a fait même qu'à ce qu'il y ait controverse entre les chiffres que le ministre de l'enseignement supérieur avance et les chiffres que Mme Isabelle Kibasa Tshisekedi, qui n'a évidemment aucune fonction officielle, mais qui, devant caméra, a avoué que les fonds qui financent la construction de l'université officielle de Mbujimayi, ce sont des fonds, soi-disant 42 millions de dollars, qui ont été perçus sur tous les revenus collectés au titre du registre d'appareils mobiles, les fameux RAM. Donc c'est pour dire que c'est le chef qui devait donner le tempo. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, il a donné trop de pouvoir à ses conseillers quand, soi-disant, les FCC lui mettaient les bâtons dans les roues. Mais quand il s'est affranchi de Kabila, il devait aussi rappeler à ses conseillers, non, voilà, maintenant c'est le gouvernement qui gère et que vous ne devez plus vous immiscer dans la gestion quotidienne de l'État. Malheureusement, c'est cette pratique-là qui a persisté. Si bien qu'aujourd'hui, quand il y a des projets qui ne marchent pas sur le terrain, vous ne savez pas à qui vous allez vous adresser. Est-ce que vous allez adresser, je prends un exemple. Si vous prenez l'exemple du projet hydroélectrique de Katende, si aujourd'hui on vous pose la question, mais à qui on doit s'adresser pour savoir où en sommes-nous? Le ministre des hydrocarbures, bien sûr, il va tâtonner, il va vous amener dans les airs, ainsi de suite, parce que ce projet a été géré au niveau de la présidence par les conseillers chargés de l'énergie. Donc c'est tout ce dysfonctionnement, évidemment. Le chef a encore une année pour se rattraper, parce qu'il ne faut pas oublier que les Kassai ou les grands Kassai, c'est son fief naturel. Et par rapport à ce qu'il a vu au Kassai, par rapport à toutes les frustrations qu'il y a au Kassai, il a tout intérêt à ce que cette année électorale, qu'il puisse ramener la confiance auprès de son électorat kassaïen, parce que là au moins il a la certitude de battre, c'est-à-dire d'avoir un bon score par rapport aux autres parties du territoire national.
Merci. Voilà. Merci Albert Kiungu, membre de la société civile. Vous êtes coordonnateur du Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kassai central. Quelle est votre réaction par rapport à cette question des lenteurs dans l'exécution de certains travaux dans l'espace Kassai?
Oui, la lenteur dans l'exécution de différents projets gouvernementaux dans les Kassai, c'est une réalité. Ça inquiète en particulier les Kassaïens, puisque ce sont eux les premiers bénéficiaires. Mais nous saluons dans tout ce qui arrive, c'est le réveil ou la prise de conscience des citoyens. Des choses telles que ça se présente aujourd'hui, ça nous donne l'impression que, effectivement, maintenant, depuis un temps, il y a un détournement à grande échelle, la ciel est ouvert, les deniers publics sont saignés à blanc, les caisses de l'État. Alors, détournement de proches du chef de l'État. Bon, moi, je veux m'interdire de verser dans les déclarations qui n'ont pas de fondement, ou de propager les détournements, notamment imaginaires. Puisque je pense qu'un détournement doit être prouvé. Mais ce qui est vrai qu'il y a lenteur, certains commentateurs disent qu'il y aurait détournement de fonds. C'est ici, comme on déplorait pour l'Est du pays, de l'absence de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État
n'est pas seulement le policier, le militaire avec la Kalachnikov. L'autorité de l'État, c'est l'État qui s'assume et qui délivre les services que la communauté a besoin. Et donc, dans l'exécution des différents projets déployés sur l'ensemble du pays, notamment au Kasaï, on a senti que l'autorité de l'État n'a pas été responsabilisée comme telle. C'est ici que la responsabilité de beaucoup de conseillers est engagée. Ils ont pris effectivement beaucoup de responsabilités qui devraient venir à certains ministres sectoriels ou à certaines directions spécialisées notamment. Voyez-vous? Et donc, ici, nous sommes tout à fait d'accord que le constat est réel. Le chef a dénoncé ce qui est arrivé, ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Et donc, nous en appelons pour nous à la clarification de la situation. Nous nous avons alerté comme société civile, comme population, tout le monde a vu. Maintenant que les organes, l'autorité de l'État, est-ce que c'est la Cour des comptes, est-ce que c'est l'inspection des finances, c'est la CRF, c'est quel service qui peut se mobiliser, les parlementaires, pour donner lumière. Et si détournement il y a, en tout cas que les coupables soient sanctionnés, on n'a pas besoin de cette justice-là pour les faibles et pour les forts. On a besoin que s'il y a des coupables, qu'on les sanctionne. Mais au-delà de ça, dans tous ces différents projets qui sont élaborés et mis en œuvre au pays, nous nous sommes en train de relever une confrontation de trois logiques. La logique d'une certaine volonté politique exprimée par la haute autorité du pays. Si vous voulez voir les choses bouger, je le dis en Mbandaka. Il dit que vous allez voir en Mbandaka une université moderne à ne plus envier l'Europe. Bon, c'est une déclaration politique, c'est une volonté qu'il manifeste. Maintenant, qui doivent la comprendre? Comment on met en place les projets? Comment se fait l'achat financier? Les circuits financiers? La passation de marché? À qui est-ce qu'on a dit? Comment se fait le suivi? Je prends la question de l'université de Kinshasa. Quand Mme Kibasa va comme saïenne, il fait des déclarations. Est-ce que ça, c'est à mettre au compte de l'autorité de l'État où elle avait un pouvoir pour aller contrôler la construction de l'université? Quel est l'organe habilité pour suivre le financement de la construction de l'université officielle de Mbujimayi? Alors, quand le ministre se défend, c'est lui qui donne la vraie version ou c'est qui? Voilà où l'autorité de l'État était crispée à un moment donné et qu'il faudra responsabiliser l'État, que les organes compétents nous éclaire sur cet éventuel détournement et que les coupables, les tourneurs, soient sanctionnés.
Merci. Madame Anna Sylvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique, vous êtes spécialiste de l'Afrique. Parce qu'il y a lenteur dans l'exécution des travaux, faut-il tout de suite y voir les indices de détournement des fonds? Ça ne peut pas être lié aussi à autre chose, telles que les difficultés d'approvisionnement des matériaux, comme l'avait expliqué récemment le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire lorsqu'il avait évoqué les cas de l'université de Mbujimayi.
Il peut y avoir tout un tas d'explications, évidemment, et je pense que c'est notre travail collectivement avec mes confrères d'essayer de faire la lumière aussi là-dessus. Si le gouvernement n'est pas transparent, s'il y a d'autres explications, et que ce sont des explications convaincantes, je pense que tous les habitants de Mbujimayi sont prêts à les entendre et que tout le monde sera convaincu si ces explications-là sont justes. Il se trouve que moi, je reviens de quelques jours que j'ai passé et au Kasaï central chez notre confrère qui est là parmi nous, et au Kasaï oriental, j'ai passé quelques jours la semaine dernière à Mbujimayi, et je suis moi-même allée voir l'université, mais j'ai vu aussi les quelques routes qu'on était en train de goudronner. J'ai également vu à l'entrée de la ville ce qu'il y avait des maisons construites. Vous savez, il devait y avoir 300 maisons construites. Ça, c'était au moment du programme des 100 jours. Bon, je les ai comptées. Elles sont 15 debout et ça fait plusieurs années maintenant. Face à ça, et là, je rejoins mon confrère également invité, il y a quand même, je l'ai entendu, une certaine préoccupation de la population sur place, qui espéraient vraiment, je crois, qu'avec l'élection de Félix Tshisekedi, un enfant de chez eux, eh bien, leur vie changerait véritablement. Et en fait, leur vie n'a pas changé du tout au tout. Alors évidemment, hein, on peut l'expliquer de mille façons, on ne change pas un pays en quelques années, etc. Mais la situation au Kassaï oriental, comme d'ailleurs au Kassaï central, je parle simplement des deux provinces là où je me suis rendue, reste très difficile pour les populations. Et il y a, de ce point de vue-là, je crois, une certaine préoccupation, voire un certain mécontentement qui parfois se fait entendre.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Et nous allons écouter Maboko Milaï, cette nouveauté des Inos B, et on revient après.
Koninga na tena monio
nani ngo
Jizo
Awilo lungumba
kokombele nje popo popo sala kwa mami na 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 na
Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la situation sécuritaire dans les Nord Kivu et en Ituri. Nous avons également analysé la question de la lenteur dans l'exécution de certains projets dans l'espace Kassaï. Participe à cette émission, Faustin Kodiasala, il est journaliste et le directeur de publication du journal Econews, paraissant à Kinshasa. Albert Kyungu, membre de la société civile et le coordonnateur du conseil régional des organisations non gouvernementales de développement au Kassaï central. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au magazine Jeune Afrique et elle est spécialiste de l'Afrique. On revient à l'actualité de la semaine en RDC. Depuis un certain moment, on constate la montée de l'intolérance politique, la transhumance politique avec les alliances qui se font et se défont à la veille des élections générales en RDC. On rappelle que c'est depuis le 26 novembre dernier que le président de la Commission électorale nationale indépendante avait publié le calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Albert Kyungu, qu'est-ce qui a motivé les choix de ce sujet?
Merci beaucoup. Le choix de ce sujet est motivé par une vision prospective. C'est vrai qu'il est de coutume qu'à l'approche de chaque rendez-vous électoral, les lignes bougent. Les acteurs deviennent de plus en plus mobiles. Les parties prenantes sont chacun sur les qui-vive. Ce qui entraîne naturellement de la montée des tensions. Mais ici, nous sentons que il y a une certaine précocité. C'est que la tension monte un peu plus tôt que d'habitude, dans le sens que les acteurs politiques qui étaient hier ensemble, qui étaient dans des coalitions, dans des plateformes ensemble, bon, au nom des intérêts qui ne convergent plus, ils se séparent. et il devient chien et chat, et aucune valeur démocratique n'est respectée. Donc, l'un devient chien à battre pour l'autre, et ça, c'est bien avant qu'on en arrive en période vraiment électorale. On a vu ça particulièrement ici dans les Kassai, entre les acteurs sociaux, les acteurs politiques, on ne se supporte pas. On ne tolère pas le point de vue de l'autre. Et donc, on peut émettre des points de vue différents, mais la démocratie doit respirer. On a besoin aussi de cette contradiction pour faire avancer la démocratie. Mais malheureusement, sur le terrain, plutôt, ça risque même de basculer vers des castes, vers des violations de droits humains. Certaines autorités, certains politiciens ont été même touchés dans leur physique. Donc, récemment, vous l'avez suivi dans l'Équateur, c'est aussi deux formations politiques qui sont presque entrées en collision, les militants. Dans les Katanga, n'en parlons pas. Et donc, dans chaque coin du pays, il s'observe cette intolérance-là, ce qui nous inquiète particulièrement, nous, à la société civile. On s'est dit, cette année, on risque de vivre ce qu'on n'a jamais vécu si on ne prend pas des dispositions à l'avance. C'est anormal que l'intolérance politique, bien avant les élections, atteigne ce niveau-là. On ne veut pas supporter le point de vue de l'autre, il défend ses couleurs, s'il veut critiquer, bon, de façon tout à fait objective, il émet son point de vue, quitte à vous de vous défendre. Non, il n'y a pas ce débat d'idées, mais on risque d'en venir même en main, c'est ce qui est bizarre, et de la transhumance politique. C'est vrai, dans tous ces sujets, on se rend compte que nous avons, c'est vrai, la vraie crise d'hommes politiques, d'hommes de valeurs, d'hommes de convictions, d'hommes qui marchent derrière des idéologies. On est plutôt devant des gens qui sont réunis autour des intérêts égoïstes essentiellement. On change du matin au soir les formations politiques, des regroupements, des alliances, comme on l'a dit. Ça s'est fait, ça s'est défait. Bon, c'est souhaitable en politique, mais ça dénote quand même d'une situation amorale, comme disait autrefois l'actuel ministre de la Coopération Affaires étrangères. C'est un peu amoral. On ne voit pas des hommes qui sont vraiment logés dans des valeurs qu'ils défendent. On voit plutôt des suiveurs. On voit des gens plutôt qui sont derrière des intérêts égoïstes. Et dans tout ça, l'intérêt de la population est jeté en pâture. Ce sont des frustrations qui justifient cette transhumance-là, puisque celui-là ne m'a pas servi aujourd'hui, et du coup, il devient mon ennemi, je vais là-bas avec ou sans idéologie pour les combattre. Cette situation ne donne pas des perspectives assez claires, paisibles pour les élections que nous voulons tous. C'est vrai, la CENI a publié les calendriers. Il nous a fixé des grandes dates, des rendez-vous pour cette année. C'est ici que il convient maintenant de responsabiliser les différents acteurs pour pouvoir jouer à l'anticipation. Vous voyez, tous ces militants ici, ils sont dans les églises. À commencer par le chef de l'État, il est dans une église. Comment on peut prêcher cette tolérance, cette acceptation de l'autre, ce pluralisme d'opinion? Comment on peut le faire dans nos associations? Comment la presse peut aider à apaiser cette situation, a atténué, heureusement, Okapi est déjà à une longueur d'avance. Merci à Okapi. Et donc, c'est ici l'interpellation de tous ces acteurs-là, donc les associations de femmes et de jeunes, comment apaiser ça. Non Merci. Seulement ces organes, mais il y a aussi des organes habilités de l'État. Vous avez la CNDH, vous avez les CSAC, vous avez la justice elle-même qui doivent déjà veiller et prendre des mesures qui s'imposent.
Merci,
pour
Albert.
Qu'on ne puisse pas basculer au drame.
Voilà. Merci. Merci Faustin Kodiasala. Et comment vous expliquez ces phénomènes? Ceci n'est pas symptomatique de la perception de la société congolaise dans sa globalité sur certains principes dans une démocratie?
Bon, en fait, moi je conçois la transhumance politique comme à la fois une menace et une opportunité pour faire agrandir notre démocratie. Vous savez, nous sommes une jeune démocratie qui a commencé à peine avec le discours de Mobutu le 24 avril 1990, vous vous rappelez. Donc, tout compte fait, nous avons à peine 32 ans d'apprentissage de la démocratie. Si on doit prendre l'exemple des autres, comme la France, depuis la Révolution française du XVIIIe siècle, la France a pratiquement passé plus d'un siècle pour apprendre, pour expérimenter, pour affiner, et jusqu'à arriver à raffiner sa démocratie, avec l'arrivée de la Ve République en 1958, avec le président Charles de Gaulle. Donc chez nous, en fait, moi je conçois tout ça comme un processus d'apprentissage, parce que le grand problème chez nous, c'est que on n'a vraiment pas de grands courants politiques, comme ailleurs en France, où on a la gauche et la droite, et tous les autres partis s'identifient par rapport à ces deux courants politiques. Quand vous allez aux États-Unis, des pays de vieilles démocraties, là, on a les démocrates et les républicains, et tous les autres courants qui viennent après, ils s'identifient par rapport à eux. Donc chez nous, en fait, bon, c'est vrai que c'est un apprentissage qui prend du temps, mais moi je conçois cette flambée des partis politiques, ou cette transhumance, comme Albert Thiong l'a dit, comme juste le fait de l'innovation ou de la soif de la démocratie. Rappelez-vous que pendant les années Mobutu, notre parole a été en fait saisie. On n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Et quand on se retrouve dans un environnement où on vous permet de vous exprimer, où on vous dit vous avez la possibilité de créer un parti politique, dès l'instant vous en avez les possibilités et la capacité, les gens se sont rués. Mais vous savez, avec les élections de 2018, on s'est rendu compte que de plus en plus, on commence à tendre vers la constitution de grands regroupements politiques. C'est ce qu'on a vu en 2018. Les partis politiques se sont réunis autour des regroupements politiques pour présenter les candidats à l'élection. Donc moi, je considère qu'il ne faut pas, évidemment s'étonner à ce que les gens courent à gauche et à droite, et ainsi de suite, parce que il faut reconnaître, on est entre nous Congolais, que chez nous, il n'y a aucune idéologie politique.
Merci.
Aucun parti politique ne peut te dire aujourd'hui, voici mon idéologie, voici mon combat est centré sur ça. Parce que si nos partis politiques avaient un idéal, une idéologie, on n'en aurait pas 700 ce jour.
Merci.
Parce qu'il suffit de faire un tour au ministère des Affaires étrangères, vous vous rendez compte qu'on est déjà au-delà de 700 partis politiques. Donc moi, je considère qu'après un temps, cette dynamique-là va se tasser, et au fur et à mesure que nous évoluons, au fur et à mesure que nous raffinons notre démocratie, au fur et à mesure qu'on apprend, on est juste au quatrième cycle de notre quatrième cycle électoral de la Troisième République. Certainement qu'au cinquième, au sixième cycle, on va se rendre compte, on tend vers une pyramide. Donc certainement à la fin, on va arriver à des courants qui vont émerger, et que les partis politiques, il y en aura plus 700 comme on en a aujourd'hui. Peut-être qu'à la fin, on va se retrouver avec trois grands courants politiques où les gens vont s'identifier comme ça s'est fait ailleurs.
Merci Madame Anna Sylvestre. Montée de l'intolérance politique, transhumance politique avec les alliances qui se font et se défont à la veille des élections. Est-ce que le même phénomène est observé en Occident ou là-bas c'est différent?
Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un peu semblable, un peu différent. La montée de l'intolérance, elle est visible, malheureusement, en Europe également. On a vu qu'un certain nombre d'hommes politiques populistes avaient fait des scores importants, encore récemment en Italie, où l'extrême droite a accédé au pouvoir. C'est le cas de la Hongrie. Ce fut le cas, d'une certaine façon, il y a peu encore aux États-Unis, avec Donald Trump qui tenait des propos régulièrement xénophobe. Donc la montée de ce populisme-là et de l'intolérance, elle est visible un peu partout dans le monde. Après, elle prend des formes différentes. En France, la question de qui est français de père ou de mère ne se pose pas, ne se pose jamais. Et à mon avis, bien heureusement, ici en France, ce pays est une terre d'immigration, et depuis des générations, des décennies, des gens sont venus ici, et je crois que nous, tous les Français, à peu près, sommes, comme on dit, de sang mêlé. Hein. On a tous des aïeux qui viennent d'ailleurs, et de mon point de vue personnel, c'est une très bonne chose, ce mélange. Donc on n'est pas exactement sur ces choses-là, mais les propos qu'on a entendus ces derniers jours en RDC, moi, ils m'ont rappelé, par exemple, les débats qu'il y a pu avoir autour du concept d'ivoirité en Côte d'Ivoire, hein, qui est vraiment ivoirien, qui est plus ivoirien qu'ivoirien. enfin on sait jamais où ça se finit, ce genre de choses. Et en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, comme aujourd'hui en RDC, ça a toujours été des concepts qui sont apparus opportunément, juste avant des échéances politiques importantes. Et de ce point de vue-là, on a vu ces dernières heures et des associations de la société civile et même le Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO hein, s'alerter de cette tension qui monte à quelques mois d'une élection présidentielle.
Merci Madame Anna Silvestre. On prend une petite pause en écoutant Bonheur de Lokwa Kanza et on revient juste après.
Atiende se boyeo Azalaki na posa ya baninga Asekisa yeo Anana se boyeo Azalaki na posa ya baninga Basolola Bawele kie ami kwakio Kolo yanda koye konde kete Awa ele kakie apumbwe o Pandiku bazangie seboye o Dekwa le bonheur Il suffit d'une phrase, d'un mot Oui le bonheur Juste un sourire, un regard Dekwa le bonheur Il suffit d'une phrase, d'un mot Oui, le bonheur Juste un sourire, un regard Anana, c'est boyeo Azala qui n'a pas sa yabanila Basoli sa ye Akende, c'est boyeo Azala qui n'a pas sa yakoseka Avalinga Mawele kiea Pumbwe.
C'était Bonheur de Pascal Lokwa Kanza. Pascal Lokwa Kanza est un chanteur multi-instrumentaliste, parolier, compositeur, arrangeur et producteur congolais, né en avril 1958 à Bukavu, en RDC. Je rappelle que nous avons dans cette émission Faustin Kodiasala, journaliste et le directeur des publications du journal Echo News paraissant à Kinshasa. Albert Kyungu, membre de la société civile et le coordonnateur du conseil régional et des organisations non gouvernementales de développement au Kassai Central. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Madame Anna Silvestre, journaliste au magazine Jeune Afrique et les spécialistes de l'Afrique. Il y a quelque temps, un groupe de scientifiques congolais avait adressé une lettre ouverte au docteur Denis Mukwege, lui demandant de présenter sa candidature à la présidentielle de 2023. Du coup, la démarche de ces scientifiques pousse certaines personnes à formuler des hypothèses, notamment celle de la candidature du docteur Mukwege. Madame Anna Silvestre, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi?
D'abord parce que nous, à Jeune Afrique, on s'intéresse essentiellement à l'actualité politique et que c'est de la politique. Et ensuite, parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer le docteur Mukwege récemment. Il a fait une tournée en Europe et que, on a eu le sentiment dans son discours qu'il hésitait, qu'il tâtait le terrain, il veut pas se dire candidat et pour l'instant rien n'affirme qu'il le sera, mais il semble en tout cas qu'il y réfléchisse. On trouvait ça intéressant parce que c'est une figure qui est tentée par la politique, hein, souvenez-vous, en 2018 déjà on se demandait s'il serait candidat. Mais qui n'est pas issu du sérail politique, qui est le prix Nobel du pays et un des rares prix Nobel africains, donc qui jouit de ce point de vue-là d'une aura importante, d'une considération notamment à l'international, mais que se pose la question de sa capacité à faire de la politique et peut-être en premier lieu à concourir pour une élection présidentielle, hein, le docteur Mukwege, il œuvre de façon très bénéfique dans l'est de la RDC, mais il n'a pas de parti politique, il n'a pas cette machine qui semble nécessaire, hein, à gagner une élection. Ça n'est pas un homme politique, donc on peut se questionner. Saurait-il faire de l'homme de la politique? Saurait-il administrer un État? Les Congolais auraient-ils envie de lui faire confiance? En tout cas, dans les temps où il y a un certain nombre de figures, alors je pense à nous en France, hein, qui aurait vu Emmanuel Macron élu il y a quelques années, mais aussi ailleurs, hein, qui aurait vu le président ukrainien élu lorsqu'il l'a été, et aujourd'hui il se révèle comme un chef de guerre, redoutable, qui réussit à tenir son pays dans une situation très compliquée. Voilà, il y a eu des surprises à l'international, et donc je trouvais intéressant de se questionner autour de la capacité éventuellement du docteur Mukwege à faire de la politique.
Madame Anna, une certaine opinion pense que le docteur Mukwege, n'étant pas politique, il lui sera difficile, s'il s'est présenté, de tenir devant les candidats déjà déclarés. Et à votre avis, quels sont les atouts que Mukwege pourrait mettre en exergue, n'est-ce pas, au cas où il décidait d'entrer dans la danse?
J'ai envie de vous dire que peut-être que son principal atout, c'est qu'il n'est pas un homme politique. Peut-être que c'est cela qui pourrait être un argument de campagne pour lui, face à une classe politique qui, de façon générale, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, hein, quand je discute avec les gens dans la rue à Kinshasa ou ailleurs, vous me demandez si je me trompe, mais j'ai l'impression d'une sorte de lassitude de la plupart des Congolais face à une classe politique qu'ils portent en peu d'estime. Hein, ils trouvent que les hommes politiques n'ont pas tellement réussi à développer comme ils le souhaiteraient, autant qu'ils le souhaiteraient leur pays, et à améliorer leur vie autant qu'il le souhaiterait. Donc peut-être que ne pas être un homme politique, c'est un atout capital.
Merci, Monsieur Albert Kyungu. Une éventuelle candidature de Mukwege pourrait-elle inquiéter les candidats du pouvoir actuel?
Pour l'instant, je ne vois pas directement la candidature de Dr. Denis Mukwege inquiéter les autres, mais c'est une candidature qui pouvait jouer au joker, dans la mesure où ça peut influencer une certaine opinion en faveur de l'un ou de l'autre candidat. C'est dans cette optique que nous sommes en train de voir à ce stade de la candidature de Dr. Mukwege. C'est vrai qu'il a été plébiscité par un groupe de scientifiques du coin. Il a l'aura, il est connu à l'international, mais il n'a pas encore la posture de tenir dans les chaudières de la politique congolaise et conduire cet État aux multiples facettes et défis. Non, comme l'a dit Madame Anne, nous pensons que Dr. Mukwege prendra son temps de réfléchir, il y pense, il réfléchit encore, peut-être les jours à venir peuvent le porter beaucoup plus de conseils et voir comment construire sa candidature. Sinon, pour le moment, il peut jouer pratiquement au joker, faire basculer les choses dans un sens ou dans un autre. C'est à ce niveau qu'il devient important, puisqu'il influence une certaine opinion, notamment à l'international, mais aussi au niveau national. Il peut faire basculer, s'il s'est prononcé en faveur ou en défaveur d'un candidat, ou s'il s'alliait derrière tel ou tel autre, je pense que ça peut influencer dans une certaine mesure. Mais directement lui-même, je ne le vois pas prendre... les choses, déjà, il a l'essence de l'humanisme et l'essence du bien que les méandres politiques tels que menés au Congo, il risque d'y entrer le matin et sortir le soir, il rend les tabliers, tout simplement parce qu'il sera dégoûté par la classe politique congolaise. Donc voilà, nous pensons qu'il est un acteur qui peut faire basculer les choses dans un sens ou dans un autre et influencer certaines opinions, et c'est comme ça que il devient un acteur sur qui il faut compter ou avec qui il faut compter. On a vu sa dernière sortie à côté de Martin Fayulu et de Moïse Augustin Matata Ampogno. Ça fait écho au niveau national. On s'est dit voilà, ils sont en train maintenant de constituer leur ticket ou de vendre leur candidature. Donc c'est un peu ça l'idée qui se cache derrière. ils montent, ils ont une opinion qui compte, qui pèse sur la place publique. Alors, qui est plus prenant, qui est mieux au front, ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de voir Dr Mukwege venir pour l'instant avec la situation actuelle. Mais il a encore un rôle à jouer. La société congolaise a encore besoin de lui sur le front où il est engagé. Il se bat notamment pour les tribunaux internationaux, pour le Congo, pour la justice transitionnelle. On le souhaite encore faire monter ça. Il a défendu suffisamment la cause des femmes victimes. Alors, jusqu'au sommet de l'État, ce n'est pas impossible, mais on pense qu'il réfléchisse encore suffisamment. Il est homme de Dieu, il est pasteur. Peut-être que Dieu peut encore lui révéler des choses qu'il peut offrir aux Congolais, quoi.
Merci Faustin Kodiasala. Quel serait le scénario possible? Mukwege présente sa candidature et est rejoint par certains candidats qui acceptent de se désister en sa faveur pour représenter un seul ticket. Mukwege ne présente pas sa candidature, mais apporte son soutien à un candidat déclaré, à un des candidats déclarés. C'est quoi les scénarios possibles selon vous, M. Faustin Kodiasala?
Bon, disons à mon humble avis, on devrait discuter de ce qui est déjà réel, parce que quand vous me présentez le scénario de Mukwege candidat, qui vont l'accompagner, de Mukwege non candidat, avec qui il va s'allier, je me dis qu'on n'est pas encore dans ces quatre figures. Évidemment, ce qui est vrai, c'est que avec notre système, notre élection présidentielle à un seul tour, ça ne peut jouer qu'avec les jeux des alliances, mais pensez déjà à ce que le prix Nobel serait un acteur principal. Moi, je suis pas encore dans cette logique. Il faut pas amener notre célèbre docteur à embrasser la politique aussi prématurément. C'est vrai que c'est un acteur social très important, dont la voix apporte même au-delà des frontières de la RDC. Mais il faut que le docteur, à mon humble avis, se concentre d'abord dans ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire soutenir toutes les femmes violées de l'Est, toutes les femmes frustrées, violentées dans l'Est, la RDC. Qu'on laisse d'abord la politique aux politiciens qui se sont clairement affichés. Il y en a beaucoup qui se sont déjà déclarés candidats. C'est vrai qu'il y a une dynamique qui pousse le prix Nobel à se lancer à la présidentielle de décembre 2023. Moi, je trouve que ce débat-là, c'est encore prématuré. Imaginez qui vont aller avec lui, avec qui il peut coaliser. Bon, il est déjà bon là où il est. Il rend déjà d'énormes services à la nation par rapport à ce qu'il sait faire. Laissons le docteur dans ce qu'il fait dans son hôpital de Pandi et concentrons-nous d'abord sur les élections à venir de façon à ce que ce soit les plus transparentes, les plus crédibles, les plus apaisées possibles.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Madame Anna Sylvestre, Monsieur Albert Kyungu et Monsieur Faustin Kodiasala. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et de Billy Landry Betou sous la supervision de Martin Sabujangwe et d'Étienne Rougeri. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Fièvre Mondo de Voloko Lai Lai, une chanson composée en 1981 dans l'orchestre Zaiko Langa Langa. Et on se retrouve le samedi prochain.
Longola baila miso atatele, kapela kolonga la vi. Kala zamela ka putu na moyo, na kete kepe ya tubela, na longola masumbo. Kipo songa na muka na zamela ka, zamela beni sapea, kapela koma motoko. Moto,
mokola moto ake Nana lela koko Moko Mokola moto ake Tule monde
Sabe disa
Mokala zangi Wea mi madanga yo Mato wele
Tout le monde,
Opa, Santa Nicola, na Mamuna, e de novo.